bien. Mais j'ai de la grosse visite en onde. Alors, de l'autre bout du fil, j'ai la chance de recevoir Mme Évelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke. Bon matin, Mme Baudin.
Bon matin.
Alors, Mme Baudin, alors je vais faire un peu votre CV. Vous avez été la première, en fait, vous êtes la première mairesse de la ville de Sherbrooke depuis le 7 novembre dernier. Avant ça, vous avez été conseillère pour le district du Carrefour, dans le coin du Carrefour de l'Estrie, évidemment. Et vous êtes également économiste de formation. Alors, c'est ça. Comment ça va? Après, je pense qu'on est rendu à la deuxième semaine là, depuis votre élection. Comment ça va et comment va le beat de vie? Est-ce que ça s'est ralenti un petit peu, là?
C'est un beat différent de la campagne. Ça reste un beat. Disons, au-delà du beat, c'est surtout la charge qui est importante. Donc, le défi, c'est vraiment de réussir à trouver du temps dans la journée pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est qu'on se retrouve avec des adjointes administratives qui prennent complètement en charge les différents aspects de notre vie. Puis, on se rend rapidement compte que c'est incontournable, là, qu'on en a absolument besoin. Parce que juste trouver un 5 minutes pour des petites choses, ça devient un enjeu.
Oui, ou comme une entrevue à la radio, là, par exemple, ou des choses comme ça. Mais en même temps, c'est le fun parce que justement, il y a, par exemple, si vous avez besoin d'un dossier de prêt ou quelque chose comme ça, ben maintenant, vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Fait que comme ça améliore un peu votre qualité de vie. Là.
Effectivement, c'est tout un travail d'équipe. On n'est pas tout seul là-dedans. Puis c'est de s'assurer que chaque personne a un rôle bien défini puis que tout se complète pour qu'on soit efficace, tout le monde ensemble.
Bon, Mme Baudin, je sais que vous avez parlé assez dans les deux dernières semaines un peu de qu'est-ce qui va se passer dans le direct, dans le maintenant. Mais moi, de mon côté, j'avais envie de revenir sur votre parcours politique pour qu'on puisse en jaser un peu puis peut-être inspirer justement des jeunes femmes et des jeunes hommes de l'Université de Sherbrooke, même un peu partout, à s'impliquer justement en politique municipale. Alors, vous avez commencé en tant que, tout d'abord, là, on se remonte dans le temps, vous avez été fondatrice pour le parti Option Nationale en 2011. Qu'est-ce qui vous avait attiré tout d'abord dans cette équipe-là, dans la formation d'une nouvelle formation politique au provincial?
Moi, j'avais observé Jean-Martin Hansan à l'Assemblée nationale. Il faisait des entrevues, puis il avait fait aussi une tournée du Québec où il parlait d'indépendance du Québec. Puis j'appréciais particulièrement son absence de langue de bois, donc son authenticité. Mm-hmm. C'était la première fois que j'observais un politicien que quand il se faisait poser une question, il avait l'air d'y répondre pour vrai. Il avait l'air de dire vraiment ce qu'il pensait. Puis ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé à l'époque. Donc, je l'avais contacté. J'avais écrit et j'avais dit que je trouvais ça bien ce qu'il faisait puis que si un jour je pouvais l'aider d'une façon ou d'une autre. Puis, contre toute attente, il m'a répondu. Puis, il m'a dit oui, justement, je suis en train de regarder pour fonder un parti politique. Ça te tente-tu?
Parce qu'à l'époque, M. Hansan avait déjà quitté le PQ quand il faisait ces rencontres-là. Il avait déjà quitté lors de, je pense, du gouvernement Marois, là, si on s'en, me semble. Ou même avant ça. Ouais. Bref.
En fait, c'est la journée de sa démission que je lui ai écrit parce que j'avais trouvé que son discours de démission correspondait aux différents malaises que j'avais avec le Parti québécois. Parce que, disons, ma famille puis mes amis étaient impliqués au Parti québécois, mais moi, il y avait quelque chose que j'arrivais pas à nommer exactement qui me rebutait, qui me retardait pour faire le saut en politique partisane. Puis quand lui est arrivé puis il a nommé ce qui le dérangeait, ça me rejoignait vraiment précisément. Puis c'est pour ça que j'étais allée avec lui.
Ben oui, et vous avez tellement apprécié justement le parti et les valeurs que vous avez décidé d'enfiler leurs couleurs pour être candidate aux élections de 2012 contre le big boss Jean Charest en plus. Là. Fait que c'est pas une petite élection, là.
Effectivement, puis tu sais, je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Là. J'avais 22 ans à l'époque, là. Mais Jean-Martin Hansan m'avait dit, ben oui, tu peux le faire, go, plonge, ça, tu vas être super bonne. Puis j'ai beaucoup apprécié cette première expérience, ça m'a donné un peu la piqûre pour la politique active. Puis après ça, ben de fil en aiguille, je me suis impliquée aussi beaucoup à l'université. J'étais pendant ma maîtrise, on avait organisé des semaines de conférences sur le thème de la souveraineté. Puis de façon très, tu sais, on avait parlé de, je pense qu'on avait parlé de l'armée, on avait parlé de la péréquation, des anglophones, des autochtones. Donc on avait abordé plusieurs sujets en lien avec la question de la souveraineté, puis ça me permettait d'être vraiment dans l'action, puis de me documenter toujours davantage sur ces sujets-là qui m'intéressent.
Mais oui, parce que justement, ça permet de faire sortir la souveraineté du carcan plus identitaire, mais plus d'y aller d'un point de vue plus intellectuel, de savoir qu'est-ce qui se passerait dans un Québec de l'an zéro. Là. Je pense que c'est un peu là-dessus que M. Hossain nous a un peu tous convaincus.
Ben c'est exactement ça, en fait. Tu sais, l'espèce de vieux discours un peu revanchard ou je sais pas, identitaire qui datait d'une autre époque était actualisé. Puis moi, je suis économiste, M. Hossain est économiste, donc ses arguments qui étaient très, à mon sens, très pragmatiques m'interpellaient, puis je trouvais que ça permettait d'amener le discours ailleurs, en fait, c'était un discours de confiance en soi, je dirais.
Oui,
c'est comme
oui.
si on s'était rendu compte, tu sais, qu'on a déjà tout ce qu'il faut, on est avancé par rapport à plusieurs sociétés, puis on se dit, ben, tu sais, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est juste dans notre tête qu'on se met les limites, finalement. Puis je dirais que c'est peut-être là aussi où, tu sais, c'est un peu le même genre de discours que j'ai tenu au municipal, là, dans la dernière campagne avec l'équipe. Un discours de fierté, de confiance en soi, de confiance en nos capacités collectives pour faire des grandes choses. Donc, il y a quand même un fil conducteur, je dirais, à travers tout ça.
Ben oui, bien sûr. Et justement, ben, la confiance de la première campagne avec Option nationale qui vous pousse également à vous mettre les orteils dans l'eau pour la politique municipale parce que justement, en 2013, vous avez décidé de vous lancer en tant qu'indépendante pour le district du Carrefour. Encore une fois, je pense qu'il y avait un autre nom à cette époque-là. Vous avez essayé la politique municipale en tant qu'indépendante. Et est-ce que c'est, en fait, pendant cette première expérience-là que, ben, après l'élection, après votre défaite en 2013, que vous avez décidé de créer le mouvement Sherbrooke Démocratie ou si bien c'était avant de se lancer en politique que vous avez fondé ce mouvement-là?
Ben, en 2013, je m'étais dit, je vais m'essayer de me lancer à l'élection. Puis j'avais rencontré les gens. Il y avait un parti à l'époque qui était le Renouveau Sherbrookois. Mm-hmm. Puis je les avais rencontrés, puis ils ne m'avaient pas convaincue de ce qu'ils voulaient faire, d'autant plus qu'ils venaient finalement s'attaquer aux institutions démocratiques de la ville de Sherbrooke. Puis ça, c'était quelque chose de vraiment important pour moi, là, de préserver la démocratie puis de l'améliorer même. Donc finalement, j'avais décidé de me présenter comme indépendante. Il n'y avait pas vraiment d'autres options en 2013. Puis après l'élection, le maire Bernard Savigny avait décidé d'accélérer la mise en œuvre de sa réforme, là, comme on peut l'appeler. Il voulait abolir deux arrondissements, réduire le nombre d'élus et centraliser les services de proximité. Puis, ça a fait en sorte, cette volonté du maire d'accélérer les choses, ça a aussi fait en sorte que nous, on a accéléré notre mobilisation. Puis donc, on a rassemblé des gens dans le mouvement Sherbrooke Démocratie. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que si on voulait avoir notre chance de véritablement avoir un impact concret, ben, il fallait continuer à s'organiser. C'est par l'organisation qu'on réussirait à avoir un impact plus fort. Donc, on a décidé de passer à l'étape suivante puis de créer le Parti politique Sherbrooke Citoyen.
Exactement, pour les élections de 2017. Est-ce qu'on pourrait dire, au final, que Sherbrooke Citoyen est un peu basé sur la création de plusieurs mouvements aux États-Unis, on pourrait dire de mouvements grassroots, parce qu'au final, c'était les gens, c'était la population qui se sont mis ensemble pour fonder un parti. Ce n'était pas des grands financiers dans un bureau qui décidaient de fonder une équipe. Fait que c'est un peu cette vision-là que vous aviez, pour le peuple, par le peuple, pour le peuple.
En fait, c'est sans parler de grands financiers,
c'est ma vision, vous savez.
Oui, c'est ça. Je dirais que ce qui était particulier, c'est que c'était surtout un parti qui avait été fondé avec aucun élu. Quand on a été fondé, c'était uniquement des citoyens et citoyennes. Mm-hmm. Puis ça, c'est dans l'univers politique québécois, c'est rare. D'habitude, les partis politiques naissent d'élus qui se mettent ensemble puis qui essayent de se faire réélire. Puis qui vont chercher d'autres personnes. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'est année le Renouveau Sherbrookois. Ou encore, ça va être un candidat à la mairie qui va essayer de rassembler des gens. Nous, il n'y avait pas de candidat à la mairie là, quand on a été fondé. On était purement des citoyens et citoyennes. Il y avait quelques personnes peut-être qui songeaient à se présenter. Mais moi-même, à ce moment-là, je ne voulais pas me présenter à la mairie. Je voulais me présenter comme conseillère. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a été un parti qui a cherché un candidat à la mairie.
Oui, d'habitude, ça fonctionne par le contraire. C'est le candidat à la mairie qu'on construit autour. Ouais.
Oui, ou qui cherche un parti. Tu sais, on le voit parfois là, à Montréal, on a dit ça souvent. Là.
Ouais, ouais.
Donc, ça a été vraiment une fonte. Tu sais, mais selon moi, c'est l'ordre dans lequel les choses devraient se passer. D'abord, des citoyens et citoyennes qui se mobilisent autour d'enjeux communs, autour d'idées communes, puis ça devient ça, le ciment du parti. Ça devient les idées, ça devient les convictions. Et pour moi, ça construit quelque chose de beaucoup plus solide que quand c'est d'abord des individus qui constituent le ciment. Puis on l'a vu avec, encore une fois, si je fais le parallèle avec le renouveau chambrocois, avec M. Sévigny, le jour où M. Sévigny a quitté, le parti s'est écroulé.
Mm-hmm.
Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est graduellement, mais ça finit par faire ça quand même. Donc, pour moi, c'est la différence entre s'impliquer dans un véhicule qui risque d'être temporaire ou de s'impliquer dans un véhicule où on construit quelque chose qu'on assure une certaine pérennité à notre action.
Et bien, justement, avec ce véhicule-là, alors en 2017, ça a été votre entrée au conseil municipal de Sherbrooke. Comment elle était, cette troisième campagne-là, étant donné que c'était votre troisième, vous aviez vu neiger, alors je pense que vous aviez plus d'expérience. Est-ce que c'était une campagne qui était plus facile, étant donné que c'est aussi votre coin de votre coin, ce que vous avez grandi? Comment ça s'est passé, la troisième campagne en 2017?
Le fait d'être avec un parti, ça présentait énormément d'avantages parce que on est 17 candidats à travers Sherbrooke quand on présente des gens partout. Puis ça fait en sorte que quand on cogne à une porte, des fois la personne a dit « je te connais pas toi, mais je connais telle autre personne, donc je vais voter pour toi ». Donc déjà, on bénéficie non seulement de notre réseau, mais du réseau cumulé des 16 autres personnes avec qui on fait équipe. Donc ça a été un avantage. Aussi, le gros avantage de juste pouvoir partager une expérience commune avec d'autres personnes avec qui on peut échanger des conseils, juste ventiler des fois après une journée de porte-à-porte difficile, des choses comme ça. Et après ça, c'est sûr que le fait que c'était la deuxième fois que je me présentais dans le même district, puis que je m'étais impliquée, tu sais, dans les comités citoyens, fêtes de quartier, tout ça, pendant les 4 ans, ça a facilité énormément mon travail sur le terrain lors de la campagne de 2017. Puis je savais où m'en aller. Tu sais, au municipal, faire campagne, par exemple, pour être conseiller ou conseillère, c'est pas quelque chose de difficile à savoir quoi faire. Là, tu sais, t'es pas là tous les matins pour te demander « OK, qu'est-ce que je fais ce matin? » C'est pas compliqué, c'est du porte-à-porte. Mm-hmm. Tous les jours. Mais c'est extrêmement exigeant, physiquement notamment, puis mentalement aussi, là, d'aller convaincre. Tu sais, c'est comme faire une entrevue d'emploi. Là. Chaque porte, c'est comme une mini-entrevue d'emploi.
Ouais.
Puis tu sais, tu fais ça à temps plein, là, 7 jours sur 7, pendant plusieurs mois, là, tu sais, 2 mois et quelques. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, mais tu sais où tu t'en vas. Tu sais. Fait que moi, ça m'avait aidé. Dans la deuxième campagne, je savais où je m'en allais parce que j'avais l'expérience des campagnes précédentes.
Puis c'était comment de se retrouver à l'Hôtel de Ville avec, au départ, vous aviez une équipe avec qui vous vouliez rentrer à l'Hôtel de Ville et là, vous étiez seul. C'était comment arriver à l'Hôtel de Ville tout seul, surtout quand on venait d'un parti et on se disait, on va peut-être être 2, on va peut-être être 3. Finalement, vous vous retrouvez là à défendre un peu les intérêts de votre parti au conseil municipal et à la population de Sherbrooke. Là, vous l'avez vécu comment, ce début de premier mandat, là?
Oh, le début de mandat était très difficile. Même si, tu sais, oui, j'étais seule, mais on avait quand même obtenu plus de 20% des voix. Tu sais, nos candidats avaient souvent terminé 2e dans les différents districts. Donc, il y avait un appui quand même, tu sais, de fond en général à notre proposition, à ce qu'on amenait. C'est juste qu'on n'était pas encore connus. Les gens ne savaient pas. Puis, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée à cause des votes qu'on avait eus, puis du fait que j'étais la seule d'un parti politique, je me suis retrouvée à être dans l'opposition officielle. Ça, c'est quelque chose qui était nouveau à Sherbrooke. La seule fois où on avait eu un parti, il était du côté du maire. Donc, on était habitué à des partis de pouvoir, mais pas à des partis qui se retrouvent dans l'opposition. Donc, ça a été un apprentissage pour les médias, pour la population, pour les gens à l'Hôtel de Ville, de fonctionner avec une situation où c'est pas le maire qui décide tout, puis que ça finit là. Tu sais, c'était comme différent comme dynamique. Le maire apporte des choses, puis l'opposition souligne des alternatives, des choses qui devraient être améliorées. Puis, compte tenu du travail d'opposition, de critique qu'on effectue dans ce genre de situation-là, ben puis de la nouveauté qui était liée à ça, ben au début, ça a été difficile pour la population à comprendre. Tu sais, c'est comme si les gens voyaient ça comme, surtout, bon, en tant que femme, des fois, les gens avaient l'impression que c'était du chialage, alors qu'en réalité, c'était plutôt de toujours tendre vers la meilleure décision possible. Puis, au cours des 4 ans, c'est quelque chose que les gens ont fini par mieux comprendre le rôle, voir comment ça pouvait se passer. Puis, ben, ça a dû fonctionner parce que, alors qu'on avait 20% du vote en 2017, ben, on a pratiquement doublé le nombre de votes pour Sherbrooke Citoyen. Puis, on avait une seule personne à l'hôtel de ville, sur les 17. Maintenant, on est rendu à 8. Je crois, c'est ça, 8 personnes de Sherbrooke Citoyen parmi les élus. Donc, c'est un saut, tu sais, c'est monumental comme croissance.
Oui, effectivement. Pour revenir juste à la critique au conseil municipal, il y en avait avant des oppositions. Comment? Ben, mais il était assez, effectivement, comme on disait, c'était pas un parti officiel, mais il y en avait des gens qu'on voyait comme des poids lourds de la politique sherbrookoise, puis qui mettaient leurs pieds à terre, puis qui n'hésitaient pas à parler des médias. Pourquoi ça a été si différent que ça, tout d'un coup, quand il y avait un budget de rattaché à ça pour les médias, ou même pour le public? Comment vous avez senti, pourquoi il y avait une grande différence?
Ben, c'est sûr qu'il y a eu... on sortait d'une époque... où il y avait beaucoup de rancœur envers un parti politique, qui était celui du Renouveau. Et là, c'était incarné par un autre parti politique. Même si c'était un autre parti, les gens faisaient un peu l'amalgame entre les deux. Moi, je suis convaincue aussi le fait que je suis une femme, et j'étais la plus jeune aussi du conseil. Là, c'est comme la petite nouvelle qui s'en vient à l'hôtel de ville. Elle ne viendra pas nous dire comment faire les choses.
Non, c'est ça. Moi, ça fait 20 ans, je suis seule à me dire pas quoi faire. Là.
C'est ça. Fait qu'il y avait ça. Puis, il y a eu énormément de désinformation. On a fait circuler, puis tu sais, c'est de la désinformation qui a circulé en fait pendant les 4 ans, puis qui nous a même suivi jusqu'à la dernière campagne. Tu sais, les gens n'avaient pas compris qu'en réalité, le budget qui était accordé à l'opposition était pris dans le budget du maire. Et donc, que même si l'opposition n'avait pas pris son budget pour fonctionner, ben le maire l'aurait pris. Et donc, aussi, tu sais, la désinformation allait jusqu'à faire croire à la population que cet argent-là venait dans mes poches, alors que ce budget-là, c'était quoi? C'était 2 employés.
C'était
d'avoir du personnel politique, comme on en a d'ailleurs au niveau provincial, au niveau fédéral. Tu sais, les élus ne travaillent pas seuls dans les parlements. Ils ne devraient pas travailler non plus seuls dans les hôtels de ville. Mais encore une fois, vu que c'est quelque chose de nouveau, ben ça demande un certain temps d'adaptation pour bien comprendre le rôle. Et au bout des 4 ans, moi, je l'ai vu, tu sais, alors que nos adversaires tentaient de me faire passer pour une chialeuse, une personne qui s'oppose à tout, ben la population, quand j'étais en contact avec, disait, ben savez-vous, moi, je suis contente d'avoir quelqu'un qui se tient debout puis qui accepte pas tout, tu sais, qui est pas là pour faire du rubber stamping puis qui remet les choses en question, parce qu'il faut se le dire, il y a des choses à remettre en question à l'hôtel de ville, puis que si personne ne le fait, ben on s'améliorera jamais, tu sais.
Et oui, effectivement. Pour fermer la page sur votre premier mandat, quelle était la plus grande réalisation de votre premier mandat pour vous, pour votre district?
Je dirais que c'est probablement l'enjeu de la protection des milieux naturels qui a pris le plus de place.
Dossier du chemin Réaume, le dossier du parc Willy Bourassa-Auger.
Exactement. Ouais. C'est des dossiers où finalement les gens se sont comme rendus compte de l'importance les écologistes, notamment les militants écologistes, se sont rendus compte qu'il y avait des choses à sauver chez eux. Là. C'est pas juste comme essayer de se battre pour que la Chine fasse moins de gaz à effet de serre, là, mais comme que dans notre communauté, il y avait des choses qui étaient menacées et qu'on pouvait se battre pour les protéger et gagner. Parce que dans les 2 cas, on a gagné. Alors, je dirais que les gens se sont rendus compte à quel point l'aménagement du territoire, qui est la compétence pour moi ultime là, des municipalités. Là, c'est comme la compétence probablement la suprême, là, que ça venait toucher nos modes de vie, ça venait toucher la mobilité, ça venait toucher les arbres, la protection des milieux naturels, et donc qu'il fallait s'intéresser au municipal. Je dirais donc qu'à travers la protection des milieux naturels, ça a été un peu un symbole, mais on a réussi, je crois, à démontrer la pertinence du municipal, puis à montrer aux gens l'importance de s'investir dans le municipal en premier lieu.
Ben justement, l'importance de s'investir, vous l'avez prouvé parce que là, ben, vous avez été élue mairesse le 7 novembre dernier, avec, comme on le disait tout à l'heure, une belle équipe aussi derrière vous, là, de conseillers de l'équipe de Sherbrooke Citoyen. Alors, là, c'est ça, on en a parlé un peu plus tôt aussi en début d'entrevue que là, la pression recommence à tomber, tout ça. Vous avez nommé la semaine dernière votre premier conseiller exécutif entièrement féminin. Une première à Sherbrooke. Au sein de ces femmes, deux de vos alliés en la personne de Laure Letarte Lavoie de Hôtel Dieu et Fernanda Luz du Carrefour, mais aussi deux personnes qui vous ont donné un peu de fil à retordre dans votre précédent mandat. On vit ça comment? Est-ce qu'on a l'impression que depuis que vous êtes élu, tout d'un coup, plein de conseillers qui ont peut-être dit des choses un peu ordinaires sur vous ont tous changé leur fusil d'épaule? Comment vous faites pour vivre avec ça?
Ben, en fait,
c'est qu'on, avec eux, en fait, plus.
Ben, c'est qu'on n'a juste pas le choix. On est là pendant 4 ans. Tout le monde qui est là doit travailler ensemble parce que on peut pas changer ça. T'sais. On est tous dans une entreprise, là, le boss, si jamais ça va pas bien avec ses adjoints, il peut décider de les changer. Mais, mm-hmm. mais là, nous, on est une équipe qui a été choisie par la population. On est condamné à s'entendre, par exemple, sur des questions comme le budget. On doit adopter un budget avant la fin de l'année. C'est la loi. Sinon, une ville qui adopte pas de budget peut être mise en tutelle. Là. Donc, il faut qu'on s'entende, au moins majoritairement, sur certains dossiers. Puis, finalement, aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se ressemble un peu plus qu'on pense une fois qu'on est à l'hôtel de ville. Du moins, il y a plusieurs points où on se rattache. Puis c'est là-dessus qu'il faut bâtir. Essayer d'abord de trouver quels sont les terrains communs. Essayer de parce que juste avec les terrains communs, on est capable de faire beaucoup de chemin. On est certainement capable de faire 4 ans. Donc essayons de voir comment faire avancer ça. Puis ensuite, ben c'est sûr qu'il va y avoir des débats et tout ça. Mais c'est ça la démocratie, hein, c'est de fonctionner avec des gens. De toute façon, moi, je crois pas à ça, un groupe de 15 personnes qui s'entend sur tout le temps. Là.
Ben non.
Ça existe peut-être dans certains pays non démocratiques, là, mais dans un endroit comme au Québec, là, tu mets 15 personnes ensemble pendant un certain temps, c'est sûr qu'il va y avoir des points de désaccord. Puis, ben l'idée, c'est de trouver des compromis qui nous rejoignent, qui rejoignent du moins une bonne majorité, puis qu'on puisse continuer à avancer.
Et en terminant, ce soir, premier conseil municipal, à quoi peut-on s'attendre?
Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'actions parce que, tu sais, il n'y a pas si longtemps à l'Hôtel de Ville, quand on écoutait un conseil municipal, là, c'était vraiment à Sherbrooke, là, oui. C'était proposer, appuyer. Ça durait vraiment pas longtemps, puis c'était terminé. Puis depuis quelques années, puis tu sais, honnêtement, je pense que Sherbrooke Citoyen y est un peu pour ce changement de culture-là. Maintenant, on explique davantage chacun des dossiers, puis les élus se sentent davantage le droit de s'exprimer publiquement par rapport aux dossiers. Alors, on va voir des élus qui vont s'exprimer. Il y a beaucoup de nouveaux qui vont vouloir montrer un peu leur couleur pour les 4 prochaines années. Alors, ben c'est ça. Alors, en même temps, je pense que ça va bien se passer. Ce qui va être le plus différent, en fait, ce sera pas tellement le conseil. Ça va être le plénier public qu'il va y avoir avant. Ça, c'est l'atelier de travail qui précède les séances. Avant, il y avait une très bonne partie qui se passait à huis clos. Et maintenant, il va y avoir une grande partie qui va se passer en public. Donc, les gens vont avoir accès aux délibérations. Entre les élus, ils vont avoir accès aux questions qui sont posées aux fonctionnaires. Ça va faire en sorte que quand ça va arriver au conseil, les gens vont savoir d'où ça vient, ce sujet-là.
Un conseil plus informé, ça fait une ville plus informée. Alors, c'est parfait. Bon, ben, je pense que vous avez une bonne journée pour vous préparer, justement.
Oui.
On va être à l'écoute de ce premier conseil municipal, en tout cas, de mon côté, pour voir un peu toute cette belle jeunesse au conseil municipal. En tout cas, moi, de mon côté, j'en parlais avec des amis. Puis je pense que c'est la première fois que les jeunes peuvent se sentir vraiment représentés au conseil municipal. Alors, dans ce côté-là, chapeau, Mme Baudin, pour votre travail dans tout ça. Et on a bien hâte de voir les prochains 4 ans. Fait que c'est tout pour aujourd'hui de mon côté, Mme Baudin. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps ce matin, puis en espérant vous revoir sur nos ondes très bientôt.
Ben, merci beaucoup.